C'est, paraît-il, l'endroit où l'immobilier est le plus cher au monde. Direction Monaco à présent. Monaco la flamboyante, Monaco la people, la bling bling. C'est une principauté encerclée par la France et qui fait l'objet d'un impressionnant lot de mythes et de fantasmes. Beaucoup sont nés en fait à partir de la création du premier casino de Monaco. C'était en 1863. Ce casino qui va signer le début de l'âge d'or de la principauté. En revanche, il est sans doute peu probable que vous ayez entendu parler de Monaco la populaire, parce que derrière le faste, il y a des milliers de travailleurs qui font tourner cette principauté dans les hôtels, les restaurants, à l'hôpital aussi ou sur des chantiers. Beaucoup traversent la frontière tous les jours pour y travailler. Des deux côtés de la frontière, Martin Delacoux vous emmène à la rencontre de cette face populaire d'un des États les plus riches au monde. C'est un reportage diffusé une première fois le 29 novembre dernier.
Dans le train en direction de Vintimille, tous les voyageurs descendent à Monaco. Avec des routes d'accès qui accumulent les bouchons, le train charrie un nombre impressionnant de voyageurs. 20 000 personnes par jour passent par la gare de Monaco. Un chiffre énorme comparé aux quelques 38 000 habitants de la principauté. Monaco se traverse en une vingtaine de minutes de marche et quelques escaliers descendus. Je retrouve ensuite Jean-Marc Ferrier, sapeur-pompier à la retraite et guide bénévole qui commence tout de suite à faire la visite du quartier.
Ici, il y avait trois fois rien. Il y avait trois maisons et il y avait la mer. Ensuite, l'industrie s'est développée. Venez, on va traverser. Et finalement, le prince René III, le prince bâtisseur, on le surnomme ainsi, eh bien, il a voulu agrandir ce quartier. On a pris 22 hectares sur la mer. Là où nous marchons actuellement, nous sommes sur la mer.
Donc là, on est dans le quartier de Fonvielle, c'est ça?
Voilà, nous sommes dans le quartier de Fonvielle. C'est un quartier extraordinaire de par sa conception, puisqu'il joint des bâtiments industriels avec le résidentiel. Et le résidentiel, il y a le secteur privé et des HLM. Enfin, pour nous, ce sont des bâtiments domaniaux. On les appelle comme ça. C'est l'équivalent des HLM en France.
Donc HLM, ça veut dire habitation à loyer modéré.
Effectivement, voilà. On peut les comparer à des HLM. Je vais vous faire pénétrer dans un HLM pour voir un petit peu le standing.
On traverse la route.
Le stade de Monaco en face de nous.
D'accord, le stade de football.
Le stade de football, hein, où il y a la fabuleuse équipe de l'ASM qui se produit. Et voilà, donc là, nous avons l'entrée de mon bloc, de mon immeuble. Vous allez voir un petit peu, je vous le ferai voir tout à l'heure, il y a des immeubles qui paraissent très, très, très standing. C'est un immeuble qui date des années 88 et qui a été un petit peu restauré. Comment on est logé à Monaco, nous les Monégasques? Quand on est une famille avec des enfants, avec deux enfants, on a droit à un 4 pièces. Et 4 pièces sont très grands, hein. Ensuite, si le couple n'a plus qu'un enfant, c'est en 3 pièces. Et moi, avec mon épouse, nous avons droit qu'à 1-2 pièces. Mais les 2 pièces, ils font quand même. L'autre 2 pièces, il fait quand même 90 mètres carrés. On n'a pas à se plaindre. Voilà, vous avez un petit peu le style d'appartement que l'on peut retrouver dans tout cet immeuble. Hein. Alors là, vous voyez, on a un salon, une grande cuisine. Alors il faut savoir que. Avec mon épouse, quand on a intégré l'appartement, tout avait été refait à neuf. Hein, voilà.
Oui, c'est pas luxueux, c'est pas non plus un HLM comme on verrait en France peut-être, où certains sont très décrépits, mais voilà, c'est pas luxueux non plus.
Non, pas du tout, non. Ce sont pas des immeubles que l'on peut retrouver où habitent les militaires.
J'ai entendu dire 50 000 euros le mètre carré. Donc, dans le parc
50
privé.
50 000 euros. Alors, dans le quartier de Monacoville, c'est minimum 35 000 euros le mètre carré. Sans vue, hein, sans rien, dans les ruelles de Monacoville. Il faut compter 35 000 euros le mètre carré. Après, plus on monte dans l'immeuble, pour peu qu'on ait une terrasse, un machin, de suite ça va monter. Mais oui, on peut dire qu'en moyenne, c'est 50 000 euros le mètre carré. Hein.
Alors qu'à Paris, c'est autour des 10 000 euros, par exemple, l'une des villes les plus chères de France,
oui,
quoi, par comparaison.
Oui, voilà. Donc, de toute manière, il faut bien se dire que Monaco, au point de vue immobilier, c'est le plus cher au monde devant Londres et Shanghai. Voilà, donc une chambre spacieuse. Voilà, donc là, vous voyez la vue. Donc, on a une vue à 180 degrés, évidemment, sur les... Monaco, c'est très difficile d'avoir une vue ouverte sur l'horizon. Quand on intègre un appartement, on ne sait jamais ce qui va se produire dans les années à venir.
Parce que ça construit tout le temps, c'est ça que vous voulez
dire ? Ça construit tout le temps. Nous sommes le plus petit territoire au monde après le Vatican, hein, donc deuxième, 2,08 km² maintenant, hein, donc avec la nouvelle extension marine. Tout est concentré. Nous sommes le pays le plus dense au monde. Il y a 20 000 habitants pour 1 km².
Pour le moment, la vue est dégagée vers le nord-ouest. On y voit ces innombrables balcons créés par l'homme et désormais recouverts d'immeubles. Au bout d'un moment, l'urbanisation s'arrête net et laisse voir la végétation méditerranéenne qui s'accroche à flanc de colline et qui signale le passage en France. Me voilà à quelques kilomètres de Monaco, plus précisément à Nice, devant l'Université de la Côte d'Azur, où j'ai rendez-vous avec Yvan Gastaud, qui est historien, mais qui a également grandi à Beausoleil. Il est notamment spécialiste de l'histoire de Monaco. Yvan Gastaud, revenons dans les frontières vraiment de la principauté pour le coup, avec ses appartements à loyer modéré, etc. Mais aussi le fait qu'on dit qu'un monégasque sur deux est millionnaire. Est-ce qu'on peut dire toujours qu'il existe un Monaco populaire vraiment dans l'enceinte de la principauté ?
Oui, il existe un Monaco populaire parce que, indépendamment de ça, Monaco a longtemps été, d'ailleurs jusqu'au moins à la Seconde Guerre mondiale, une terre d'habitat populaire, hein, notamment sur le rocher de Monaco. Le rocher de Monaco a longtemps été, et il est encore un peu aujourd'hui, malgré des loyers élevés, hein, dans un habitat qui n'est pas forcément un habitat d'une grande richesse. On peut vivre au troisième étage d'un petit immeuble ou d'une petite maison du rocher sans être dans la grande fortune. Alors sans aller jusqu'à parler de pauvreté, il y a, oui, véritablement Monaco populaire. Un Monaco de gens qui, sans être forcément dans le besoin, sont des gens qui ont une approche, je dirais, du quotidien tout à fait modeste. Et il me semble que ce Monaco-là n'est pas celui qu'on retient quand on est dans le monde entier, mais c'est un Monaco que même le prince, hein, je dirais, le gouvernement prend en compte. Alors sans aller jusqu'à parler de pauvreté, il y a véritablement Monaco populaire, un Monaco de gens qui, sans être forcément dans le besoin, sont des gens qui ont une approche, je dirais, du quotidien tout à fait modeste. Et il me semble que ce Monaco-là n'est pas celui qu'on retient quand on est dans le monde entier, mais c'est un Monaco que même le prince, hein, je dirais, le gouvernement prend en compte. C'est d'ailleurs même une sorte de nécessité pour que les racines monégasques soient valorisées. Évidemment, si on est monégasque, on a tendance à être un peu aidé, parfois subventionné, parfois on vit dans des HLM qui apparaissent comme des appartements de luxe. Mais voilà, il y a une dimension qui se joue aussi dans les sociabilités. Le Monaco populaire se retrouve à la place d'armes, au marché. Voilà, il y a quelques lieux comme ça populaires, hein, qui sont préservés. Et me semble-t-il que la principauté préserve. D'ailleurs, le prince lui-même, hein, peut être aussi très proche de ces monégasques plus modestes, on pourrait dire, pour lesquels l'attention est assez importante. Voilà.
Donc Jean-Marc Ferrier, là on est dans votre appartement à loyer modéré comme on dit ici. J'ai vu ce chiffre de 1 monégasque sur 2 est millionnaire. On vous met dans quelle catégorie vous ?
Disons que oui, c'est une image que nous avons. Hein. Il y a même une journaliste qui avait dit qu'un monégasque sur 3 était milliardaire. Parmi les monégasques, nous ne sommes pas tous millionnaires. Mais il est évident que nous avons tous un petit peu des privilèges, hein, financiers, tout ça. Donc, mais il y a quand même des gens qui sont dans la précarité, il faut le savoir, des monégasques. Mais ils reçoivent une aide de l'État qui leur permet de bien vivre tout de même.
Jean-Marc Ferrier est né français. Il a dû renouveler plusieurs fois la demande et attendre des années pour obtenir la nationalité monégasque.
Mes parents avaient, même s'ils sont nés à Monaco, enfin mon père est né à Paris quand même. Hein. Il est venu tout jeune à Monaco, il est venu enfant. Il a fait sa vie à Monaco et puis voilà, ma mère était italienne à l'époque. Voilà, donc on a toujours eu un mode de vie à la monégasque en fait. Hein. Vivre à la monégasque, c'est-à-dire vivre avec le cœur attaché à la principauté, c'est se draper dans le pavillon monégasque rouge et blanc, avoir le plaisir de chanter l'hymne monégasque. Vivre à la monégasque, c'est ça.
Si la nationalité monégasque est difficile à obtenir, c'est notamment pour limiter le nombre de personnes qui vivent à Monaco. La crise du logement est telle que de nombreux appartements sont réservés aux monégasques, puis dans un second temps aux enfants du pays, des personnes qui sont nées et qui vivent à Monaco, mais qui ne disposent pas de la nationalité. Un système qui ressemble fort à la préférence nationale.
juste devant moi le petit panneau qui indique qu'on rentre dans la commune de Beausoleil. Il n'y a aucune manière sinon de différencier que ce soit Monaco ou Beausoleil. Les deux villes se ressemblent entièrement et même pas de drapeau français ou quoi que ce soit qui signifierait qu'on arrive en France.
Le Riviera, il est construit à l'initiative de la Compagnie internationale des wagons-lits. Donc c'est la fameuse compagnie du Transsibérien. C'est une compagnie donc belge qui va irriguer toute l'Europe, voire même au-delà de ces trains. Et aux têtes de pont, au terminus, la compagnie va construire des grands hôtels, dont le Riviera Palace de Beausoleil.
Voilà, c'est celui-là ?
C'est celui-là, ouais, qui est dans la perspective des escaliers qui sont ici, qui sont les escaliers justement du Riviera.
Où il y a des escalators, ça c'est peu commun quand même d'avoir des escalators comme ça en pleine ville.
C'est assez récent.
Au sommet de ces escalators en plein air, Catherine Acciardi nous guide à la terrasse du palace qui domine Beausoleil. Catherine est responsable d'un centre d'archives à Beausoleil, le centre Roger Benati. Elle a choisi cet endroit pour nous montrer la géographie particulière de la ville, la différence avec Monaco est pour le coup bien visible depuis ce point de vue surélevé.
On voit sur les cartes postales anciennes d'avant 1914, on voit très bien ce palace magnifique et on voit tout autour de cet escalier des toutes petites maisons de même pas un étage, donc ce sont vraiment des maisons très populaires, voire même des maisons où étaient logés les ouvriers du chantier du Riviera.
Et il faut imaginer qu'il y a un peu tout qui descendait à Monaco, les hommes qui allaient travailler, les mules ou d'autres bêtes qui transportaient aussi de la marchandise, puis remontaient ensuite pour revenir ici.
Oui, de toute manière, ça permettait à tous les producteurs du secteur de descendre leurs marchandises. C'est là où il y avait le marché, là où ils allaient pouvoir avoir des acheteurs.
Et donc là, on voit vraiment le grand casino juste là-bas, donc le sommet du luxe, etc. Mais encore aujourd'hui, c'est des quartiers plutôt populaires qui s'étendent jusqu'à Monaco.
Alors, au niveau du tissu urbain, en effet, du vieux quartier, bon, évidemment, on n'est plus dans le bidonville hein, quand même. Il y a eu quand même une progression qui s'est faite. Il n'y a pas eu de gros changements sur le tissu urbain. Ça reste des petites maisons. Par contre, elles sont acquis un certain prix. Parce que oui, il n'y a pas d'accès direct, c'est un accès pédestre, mais aussi il y a une certaine tranquillité, hein, y a moins de voitures qui passent du coup. Et en effet, l'immobilier fait tache d'huile aussi ici, c'est-à-dire que sauf d'avoir une maison de famille, ça ne sera pas forcément bon marché d'acheter dans le quartier populaire du Carnier. La tâche de l'inflation immobilière, ce n'est pas arrêtée au quartier du Carnier.
En plus de Beausoleil, deux autres communes entourent Monaco, Cap d'Aille et Roquebrune-Cap-Martin. Si cette dernière a toujours été favorisée, Cap d'Aille et Beausoleil ont été de véritables bidonvilles, comme l'explique Yvan Gasto.
Beausoleil et Cap d'Aille ont été créés dans le cadre d'une présence importante de populations ouvrières et en particulier immigrées. Et aujourd'hui, c'est encore beaucoup le cas de Beausoleil en particulier. Voilà, Beausoleil est une commune d'environ 20 000 habitants qui a cette caractéristique d'être la banlieue de Monaco. Mais c'est une banlieue un peu particulière parce que quand on regarde la principauté de Monaco de loin, de haut, tout est mêlé. Hein, il y a une sorte d'agglomération. Et au milieu de cette agglomération, traverse une frontière qui est aussi une frontière, non seulement une frontière étatique, mais qui est aussi une frontière sociale extrêmement marquée. Et en fait, Beausoleil est une commune qui a été fondée spécifiquement pour l'immigration italienne. On pourrait presque parler, comme on le dit pour d'autres régions de France et d'Europe, de Petite Italie. C'est-à-dire que c'est une commune qui est créée en 1904 et dans laquelle il y a à peu près 6 000 habitants. Et sur ces 6 000 habitants, il n'y a quasiment que des Italiens. 80-90% sont des Italiens. Alors on peut difficilement parler de ghetto parce qu'on est sur un petit espace, mais néanmoins voilà, c'était la cité dortoir de la principauté de Monaco, cité dortoir qui n'a jamais cessé depuis 1904, donc depuis maintenant plus de 120 ans, d'être une ville dans laquelle se jouent les questions de brassage interculturel, avec des personnes venues des Philippines, venues d'Inde, venues du Pakistan, venues d'Afrique, venues du Maroc. Enfin, voilà. Il y a une sorte comme ça de mosaïque aux portes de Monaco.
Et sortons un petit peu de la grande histoire pour votre histoire. Vous avez grandi un petit peu à Beausoleil. Qu'est-ce que c'était grandir dans cette ville-là à l'époque ?
Oui, alors on peut faire on peut évoquer une sorte d'égo-histoire, dans la mesure où, pour ma part, en ayant grandi dans les années 70-80 à Beausoleil, on est dans une sorte de petite une sorte de petit village, une sorte de bassin, hein, qui fait que très vite sortir de là, c'est aller à Nice, et Nice est déjà très loin d'une certaine manière. Et en même temps, quand on est dans ce bassin, on peut vivre à très, très près, très proche, les différences culturelles. Comment est-ce qu'en allant, en étant à l'école primaire à Beausoleil et ensuite en allant au lycée de Monaco, on peut ressentir une sorte de gap extraordinaire. Voilà, donc c'est ça qui est intéressant, parce que sur un petit périmètre, les différences sont très nombreuses et très variées.
Bonjour. Est-ce que vous habitez ici et travaillez ici ?
Je travaille ici.
Oui, c'est vrai ?
Moi, je suis assistant banquier privé.
C'est quoi votre prénom ?
John. Avant, j'habitais à Beausoleil, mais après, j'ai acheté un bien à Nice, en fait. Okay.
Vous êtes un pendulaire, comme on dit,
oui.
Où vous faites l'aller-retour.
Voilà. Oui.
Et pourquoi vous n'avez pas acheté à Beausoleil ?
Au niveau du prix.
c'est trop cher, c'est pour ça que tout le monde va loin, c'est ça ?
C'est tout à fait ça.
Mais l'idéal, ça serait quand même d'habiter à Monaco, si je comprends bien. Si vous aviez les moyens, évidemment, ça serait le rêve.
Si seulement on a les moyens, oui. Mais bon.
Même des personnes travaillant dans la banque sont donc amenées à vivre en dehors de la principauté. Trouver un logement est encore plus compliqué pour les métiers moins valorisés. Maria est aide à domicile.
Je travaille à Monaco aussi. J'ai habité Monaco pendant 30 ans. Et puis après, comme je me suis retrouvée seule, les loyers, ce n'est pas possible. Donc on a déménagé Cap d'Ail.
Okay.
Et on travaille sur Monaco, pareil. Et il faut être deux pour payer un loyer d'un studio. Et ce n'est pas possible d'être seule, quoi.
Pourquoi vous avez dû partir alors, parce que vous êtes restée 30 ans à Monaco ?
Parce que j'étais en couple pendant 30 ans. Je me suis retrouvée veuve. Et le fait d'être seule, ça devenait trop lourd. Et avec deux enfants à charge, alors là...
Votre compagnon était monégasque ?
Non, il était portugais comme moi. Il travaillait dans le bâtiment, il est décédé dans le bâtiment. On est arrivé ici pour se donner un moyen de vie un peu plus facile. Quand on sera vieux, de se dire on aura une petite maison et puis on pourra vivre tranquillement. Puis les enfants grandissent ici, ils ne veulent plus partir parce qu'ils ont les copains, les copines, le métier. Et puis pour eux, ça devient leur lieu d'origine ici, plus que chez nous. Alors que nous, nous sommes nés au pays. Mais après toutes ces années, 30 ans dédiés à Monaco, on a toujours été des gens très droits, respecter les lois de Monaco, qui est très important. Et de se retrouver dans un état comme ça et de ne pas trouver de soutien, ça a été difficile. Ça, c'est vrai. Alors que d'autres arrivent du jour au lendemain de l'étranger et ils sont tout de suite des maisons, je ne sais pas quoi, ce qu'ils ont là. J'aurais aimé que l'État soit plus attentif à ce genre de situation. Et donc, on se retrouve comme si on n'était rien, en fait.
Malgré une vie passée à Monaco, les enfants de Maria, qui travaillent aussi dans la principauté, ne pourront sûrement pas obtenir la nationalité. Un cas qui illustre bien l'insécurité dans laquelle peuvent se retrouver certains travailleurs. L'Union des syndicats de Monaco a plusieurs revendications pour tenter de résoudre ces difficultés, notamment le maintien dans le régime d'assurance maladie monégasque des salariés ayant fait leur carrière à Monaco mais vivant en France, la retraite monégasque étant bien plus avantageuse. Une demande qui reste lettre morte depuis des années. Retrouvons maintenant Jean-Marc Ferrier au marché de la Condamine, un lieu qui lui tient à cœur.
Voilà, donc ça c'est le bar Badjouan. Je vous laisse peut-être le décrire.
Pâte à ravioli avec à l'intérieur une farce avec de la blette, de la ricotta, de l'ail, du basilic, du parmesan et de la mortadelle. Et c'est frit.
Et en bas, on voit de la pissaladière, donc voilà, une espèce de pizza aux oignons, tout ça, c'est très ligure aussi, ou italien.
Voilà, c'est très ligure, hein, c'est ligure. Mmh. On va pas dire que c'est typiquement monégasque, parce que ce serait faux de le dire ça. Donc ça, c'est un endroit convivial. Les gens... ils peuvent ou manger directement au comptoir s'ils peuvent, ou alors ils s'assient à la table. Vous voyez que là on est à Monaco, c'est pas le luxe de. C'est des verres de cantine, verres de cantine en toute simplicité. Et ça, à Monaco on en a besoin. Voilà.
Pourquoi on en a besoin ?
Parce que ça fait plaisir de se retrouver aussi entre nous, quoi. Je veux dire, ici, hein. On est loin du luxe touristique. La principauté, hein. Où est Roger ?
Bonne question.
Ça a disparu.
C'est vrai.
Bonne question.
On ne dit pas ça. Hein. Ah ben, il fait les meilleurs socas au monde. Hein. évidemment, je dis ça par chauvinisme.
Voilà. Et donc là, on a une photo justement de...
C'est Roger.
C'est Roger. Qui est avec qui?
Avec le prince Albert.
Donc le
plus
souverain
jeune,
actuel.
Le plus jeune. Ouais. Hein, avec Charlène, son épouse, qui vient manger la soca. Parce qu'alors,
de temps en temps.
Alors vous voyez qu'il y a le prince, il est avec nous, hein, il est toujours dans notre vie. Hein. Il se sent bien parmi nous. À nous de le respecter. Mais il se sent bien. De temps en temps, il vient au marché.
Au-delà d'attirer les grandes fortunes qui font aussi vivre ce territoire si particulier, les dirigeants de Monaco flattent donc aussi les personnes plus modestes pour tenter de garder cette identité à part sur la Côte d'Azur, mais un peu oubliée du reste du monde.